Bonjour et bienvenue, 11h TU, midi ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, les libérations d'otages dans la bande de Gaza se poursuivent. Ce matin, un convoi de la Croix-Rouge a quitté le territoire palestinien avec à son bord 3 otages israéliens libérés dans le cadre de la trêve conclue entre Israël et le Hamas. À Munich, la conférence sur la sécurité, 2e jour, avec ce matin une nouvelle prise de parole de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien appelle l'Europe à agir pour son propre bien et aussi à se doter de ses propres forces armées pour se défendre face à la Russie, à suivre dans un instant. Dans ce journal aussi, la situation en RDC. Le groupe M23, soutenu par le Rwanda, continue d'avancer dans l'Est. La situation a contraint le président Tshisekedi à renoncer à participer au sommet de l'Union africaine. Allons pour commencer à Munich où la 2e journée de la conférence sur la sécurité a commencé. Le temps fort de la journée d'hier a été la rencontre de Volodymyr Zelensky avec la nouvelle administration américaine, le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio. Pascal Thibault, bonjour, vous êtes notre correspondant en Allemagne. La matinée,
bonjour.
Pascal, a encore été consacrée à l'Ukraine, avec donc les prises de parole du président ukrainien, du chancelier allemand et d'autres responsables européens.
Oui, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a souligné les lignes rouges qui étaient pour lui essentielles en cas d'accord pour trouver une solution à la guerre actuelle. Pas de décision sur l'Ukraine sans l'Ukraine, pas de décision sur l'Europe sans l'Europe. C'est ce qu'il a martelé durant son discours sous les applaudissements du public de la conférence sur la sécurité de Munich. Il a aussi plaidé pour une... Il a aussi lancé un vibrant appel en faveur d'une Europe plus forte qui parlerait d'une seule voix et qui disposerait de sa propre armée. Le président ukrainien a estimé que l'Europe agirait par là pour son propre bien, doutant de la solidarité de l'administration Trump sur la durée pour ce même continent. Le chancelier Scholz, vous l'avez mentionné, prenait la parole un peu plus tôt. Il a lui plaidé dans le même sens en déclarant « la paix n'existera que si la souveraineté de l'Ukraine est assurée. Je n'accepterai jamais une paix imposée à Kiev », a estimé le chef du gouvernement allemand. Il a aussi réagi avec fermeté aux déclarations hier du vice-président américain Vance, qui avait soutenu le parti d'extrême droite AfD. Olaf Scholz a estimé « la direction que prendra notre démocratie, nous seuls en décidons, nous et personne d'autre ».
Pascal Thibault, notre correspondant en Allemagne. Le Hamas a comme prévu libéré ce matin 3 nouveaux otages à Gaza. 3 hommes, tous binationaux, qui avaient été enlevés dans un kibboutz. Ils ont recouvré la liberté après plus de 16 mois de captivité. Leur remise en liberté découle de l'accord de trêve conclu entre Israël et le mouvement islamiste. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 19 janvier, 19 otages israéliens ou binationaux ont été libérés. La première phase de l'accord prévoit la libération de 33 otages en échange d'environ 1900 Palestiniens détenus par Israël. Ce matin à Tel Aviv, les proches des otages étaient encore au rendez-vous pour célébrer les libérations. Il y avait beaucoup d'émotions et aussi encore de l'angoisse sur la fameuse place des otages. Dans la foule, Marcia au micro de notre envoyé spécial Abla Junaidi.
This week was a depression, anguish, desperate week.
Cette semaine a été très déprimante, angoissante, désespérante. Nous avions tous très très peur. On pensait que nos otages étaient au minimum alimentés, mais quand on a vu la semaine dernière qu'ils étaient quasi mourants, on a compris qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Tout le monde a paniqué. Moi, j'avais la migraine et je me disais, « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va se passer pour nous si les autres ne sont pas sauvés ce samedi ?» Nous n'avons plus le temps.
I was like, oh my God, what will happen with us if this won't solve this Saturday? We don't have time anymore.
Marcia au micro de RFI ce matin à Tel Aviv. Au Liban, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité intérieure avait été convoquée ce matin. Les autorités libanaises ont promis des sanctions contre les responsables d'une attaque d'un convoi de l'ONU hier soir à Beyrouth. Elle a fait 2 blessés. Le convoi de la FINUL transportait des casques bleus vers l'aéroport international de Beyrouth. Il a été attaqué sur une route bloquée par des partisans du Hezbollah.
RFI.
Et maintenant, le point sur la situation dans l'est de la RDC, où le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, continue d'avancer dans la province du Sud-Kivu. Après avoir pris le contrôle de l'aéroport et des quartiers voisins, les combattants sont désormais signalés à Bukavu, la capitale provinciale. Patient Ligodi, bonjour.
Bonjour Jules.
Ce midi, la ville est plongée dans l'incertitude et ses habitants vivent dans la peur.
La situation reste confuse à Bukavu. Des crépitements sporadiques se font encore entendre, bien que moins intenses qu'au lever du jour. Dans certains quartiers de la commune de Kadutu, par exemple, des habitants affirment avoir aperçu des militaires de forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans cette commune où on retrouve également le grand marché de Bukavu, où des scènes de pillage ont été signalées. Selon plusieurs témoins, une partie du marché a été incendiée après ces pillages, mais l'ampleur reste moindre comparée aux violences de la nuit précédente, marquées aussi par des scènes de pillage. Au centre-ville, le calme reste précaire, aucune circulation observée, ni voiture, ni moto dans les rues. La ville tourne au ralenti et l'incertitude demeure.
Merci Patient Ligodi pour ce point. Sur le plan diplomatique maintenant, l'escalade militaire a bousculé l'agenda du sommet de l'Union africaine, sommet qui se tient ce week-end dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Le président congolais Félix Tshisekedi a renoncé à s'y rendre, alors que Kinshasa réclame en vain des sanctions contre Kigali. Les appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu se sont multipliés sans résultat jusqu'à maintenant. Il faut éviter à tout prix une escalade régionale, a lancé ce matin le secrétaire général de l'ONU à l'ouverture du sommet à Addis Abeba. En France maintenant, un déplacement de François Bayrou ce matin dans sa région, le Sud-Ouest. Le Premier ministre est accusé par la gauche d'avoir menti sur sa connaissance des violences et agressions sexuelles au collège-lycée de Bétarame. Il devait rencontrer à Pau, ville dont il est le maire, le collectif des victimes. Devant ce dossier de plus en plus embarrassant, le gouvernement a aussi demandé au rectorat une inspection de l'établissement catholique, établissement en contrat avec l'État. Aram Beng, bonjour.
Bonjour.
Vous nous rappelez les faits dans ce dossier.
Tout à fait, l'affaire est partie du journal d'investigation Mediapart qui affirme que François Bayrou était bel et bien au courant des plaintes pour agression sexuelle qui auraient été commises au lycée-collège de Bétarame entre 1970 et 1990. Selon les médias en ligne, l'actuel Premier ministre aurait été informé de ces plaintes à plusieurs reprises quand il occupait le ministère de l'Éducation nationale à l'époque. Une première fois en 1996 par le biais d'une professeure qui lui aurait fait part du climat des violences dans cet établissement privé catholique. Autre événement qui ne pouvait pas être ignoré du ministre de l'époque, selon Mediapart, le dépôt d'une plainte en 1996 contre un surveillant du collège-lycée pour des faits de violence. Un mois après cette plainte, François Bayrou s'y était rendu pour une visite officielle au cours de laquelle il aurait évoqué un dénigrement contre le collège-lycée. En 1998, le ministre est informé par un juge d'instruction de la mise en examen pour viol du directeur de l'établissement. Et en mars 2024, un septuagénaire reconnu victime de viol à Bétarame par l'Église lui adresse un courrier dans lequel il demande au maire de Pau de ne plus ignorer les témoignages des victimes.
Aram Beng, merci à vous. À la page économique maintenant, les très bons résultats financiers d'un grand nom du luxe, le groupe Hermès, défie la crise dans ce secteur. Hermès vient de dévoiler ses résultats pour 2024. Le chiffre d'affaires a bondi de 13% à 15 milliards d'euros et le bénéfice net a augmenté de 6,8%. L'an dernier, la consommation de produits de luxe a clairement ralenti, mais Hermès semble pas concerné de son côté. Oriane Gendreau.
Une croissance presque insolente dans un secteur du luxe fortement ralenti. La fin de l'année a été particulièrement marquante. Entre octobre et décembre, les ventes d'Hermès ont augmenté de 17% contre seulement 1% pour LVMH. Des ventes en hausse en Amérique, en Europe et même en Asie, alors que les ventes de produits de luxe en Chine ont fortement baissé. Hermès s'en sort surtout grâce à une hausse des dépenses moyennes de ses clients, surtout dans la bijouterie, le cuir et le prêt-à-porter. La marque a réussi à fidéliser une clientèle très aisée, beaucoup plus fiable en période de crise que celle de ses concurrents. Le gérant du groupe Axel Dumas salue une performance solide dans un contexte économique et géopolitique incertain. Interrogé sur les risques de droits de douane imposés par le gouvernement de Trump, il commente « Quand les droits de douane augmenteront, on augmentera nos prix en conséquence. Le patron se montre confiant et réfléchit à investir le marché de la haute couture cette année. »
C'était Oriane Gendreau en tennis. Enfin, une affaire de dopage vaut au numéro 1 mondial Yannick Sinner une suspension de 3 mois. L'Italien est suspendu jusqu'au 4 mai en vertu d'un accord de règlement conclu avec l'Agence mondiale antidopage. Très bonne journée sur RFI.